KNS prépare sa mise en sommeil à froid. La semaine dernière, la direction de Cognan-Boniquet a annoncé le déclenchement d'un plan de licenciement de ses 1200 salariés, faute de repreneurs. L'actualité internationale, Israël dit être proche d'une guerre totale avec le Hezbollah et le Liban. L'État hébreu annonce se préparer à répondre à une attaque qui a fait 12 morts parmi des civils israéliens. En métropole, l'actualité est dominée par les Jeux Olympiques, entre les polémiques sur la cérémonie d'ouverture et la pollution de la Seine. Sur les podiums maintenant, deux nouvelles médailles d'or pour la France. Au cours de la nuit dernière, Léon Marchand a survolé l'épreuve du 400 mètres 4 nages. Et un peu plus tôt, Pauline Ferrand-Prévot a été sacrée en VTT cross-country. La météo en Nouvelle-Calédonie, le soleil domine en général. Toutefois, des nuages se développent sur le relief et débordent sur l'ouest en fin de journée. D'autres circulent encore sur la côte est et donnent de rares averses. Les températures maximales sont en légère hausse, comprises entre 24 et 27 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, avant de développer tous ces titres qui font l'actualité aujourd'hui, je vous rappelle que c'est donc aujourd'hui que les nouveaux horaires du couvre-feu entrent en vigueur. Il sera désormais effectif de 22h à 5h du matin. Le commissariat rappelle que la vente et le transport d'armes et d'alcool restent interdits sur l'ensemble du territoire. Et puis cette semaine sera aussi marquée par l'arrivée mercredi soir en Nouvelle-Calédonie de la ministre déléguée aux Outre-mer, Michaëlle Juneski.
Marie Guévenoux commence son séjour dans le Pacifique à Tahiti, où elle assiste aux épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024. La ministre déléguée restera en Nouvelle-Calédonie jusqu'au 2 août et selon le communiqué du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, elle se tiendra aux côtés des agents engagés pour rétablir l'ordre et répondre à la crise que connaît actuellement la Nouvelle-Calédonie.
Une visite sur le territoire quelques jours seulement après le rendez-vous des quatre parlementaires calédoniens à l'Élysée. Et d'ailleurs, de retour de Paris, Nicolas Metzdorf sera notre invité tout à l'heure à 7h30. Le député de la première circonscription reviendra notamment sur cet entretien avec le président de la République. En bref, toujours, l'Assemblée générale de la CCAT s'est déroulée ce week-end à la tribu de Baille à Poindimier. Rien n'a filtré pour l'instant des débats qui ont eu lieu pendant deux jours à huis clos, mais on sait que le député de la seconde circonscription, Emmanuel Chibaou, était présent hier à Poindimier. Il a échangé avec les militants de la CCAT. Pas d'exaction majeure pour cette nuit. Tôt ce matin à Dimbéa, toutefois, des poubelles ont été incendiées sur la RT1 au niveau de la Chelle d'Auteuil. Les pompiers sont rapidement intervenus pour éteindre le feu et nettoyer la zone. Quelques débris peuvent subsister sur la route. Soyez prudents si vous prenez cet axe routier. Et puis côté circulation toujours, des ralentissements sont signalés sur la Save Express ce matin, notamment entre le pont des Érudits et le Médipôle. Dans l'actualité économique maintenant, je le disais tout à l'heure en titre, va-t-on assister le 31 août prochain à la fin de l'aventure de l'usine du Nord ? La question se pose après l'annonce faite la semaine dernière du probable licenciement des 1200 salariés de KNS, faute d'une offre de reprise finalisée, Gilles Ménage.
C'est il y a 6 mois que Glencore, actionnaire à 49% de l'usine du Nord, a finalement jeté l'éponge, annonçant vouloir se retirer d'un projet qui a accumulé au fil des années plus de 1000 milliards de francs de dettes, avec un procédé que le groupe anglo-suisse a jugé non rentable. Malgré de nettes avancées techniques ces derniers mois, les objectifs de production n'ont jamais vraiment été atteints. Pour autant, 3 groupes industriels de dimension internationale se sont montrés et continuent de se montrer intéressés par la reprise de KNS, affirme son vice-président Alexandre Rousseau. Et ce ne serait donc pas la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie qui freinerait les négociations.
Il y a toujours effectivement 3 groupes internationaux qui sont toujours intéressés dans le processus de reprise. Je pense que c'est plutôt le temps qui a manqué. On savait que 6 mois c'était court pour concrétiser un tel deal. Et donc effectivement, à maintenant 1 mois de la fin du temps qui nous est imparti, aucune solution n'est encore formalisée.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour l'usine ?
Pour l'usine en elle-même, on n'est pas encore déterminé. On se prépare à toutes les éventualités, donc celle notamment de passer en veille froide. Et si nous devions passer en veille froide, nous avons encore beaucoup de travail pour atterrir à cette configuration vers la nouvelle et puis ensuite garder le site en sécurité et conforme à la réglementation.
Si le site de Cognan-Boniquet devait passer en veille froide, cela signifie tout simplement que les fours seront éteints. Mais il n'y a pas que l'usine qui présente de l'intérêt pour d'éventuels repreneurs, estime Alexandre Rousseau.
Si nous venions à éteindre le four, il nécessiterait de gros travaux de reconstruction pour permettre à nouveau une production pyrométallurgique sur la partie industrielle. Le process NST, qui était la particularité de notre procédé pyrométallurgique, dans le courant de l'année dernière, nous avions résolu les difficultés majeures et nous reprenons une montée en puissance, on va dire, conforme aux objectifs. Aujourd'hui, on sait que les difficultés mondiales de la filière nickel ont poussé nos actionnaires à prendre d'autres décisions. l'intérêt que continue à présenter le site pour de potentiels repreneurs, une réserve minière qui est encore importante, un site industriel avec un port en eau profonde qui offre une bonne configuration et je dirais surtout une main d'œuvre qui continue d'être formée et qui a développé une culture industrielle d'un standard international.
En province nord, l'annonce du licenciement des 1200 salariés de Canet-Nes est évidemment un choc car même si tout le monde se préparait à cette éventualité depuis 6 mois et que les salariés sont accompagnés, la fermeture de l'usine aura nécessairement des conséquences en cascade.
Les salariés qui depuis, pour certains, 10 ou 15 ans, travaillent d'arrache-pied à faire de Cognac-Bonnicane un succès, ont dû continuer à montrer leur engagement ces derniers mois dans une situation particulièrement difficile. Et nous avons profité un petit peu de cette visibilité et de ces options pour pouvoir se préparer au mieux et les préparer au mieux. Donc effectivement, on essaye d'accompagner dans le reclassement, dans la reconversion professionnelle. Et c'est un travail qu'on va poursuivre dans les semaines et les mois qui viennent.
Ça va forcément aussi avoir un impact sur la situation économique en province nord.
Alors oui, effectivement, tout le monde connaît l'histoire de Cognac-Bonnicale. Nous avons rencontré des difficultés d'ordre technique, mais il y a au moins un des objectifs fixés, je dirais même l'enjeu principal de l'usine du Nord, qui était de parvenir à un rééquilibrage économique. Je pense qu'on avait, vraiment rencontré le succès sur cette partie. On avait permis aussi un nouveau tissu économique de se créer. Bien évidemment, la chute de 1200 emplois, sans compter ceux des sous-traitants, va avoir des impacts, mais pas uniquement sur la zone DKP, ni uniquement sur la province nord, mais probablement sur l'ensemble du territoire.
Et d'ici la fin du mois d'août, des négociations seront entreprises pour obtenir des indemnités de licenciement supérieures aux normes légales pour les salariés. Ainsi, vous l'avez entendu, que des mesures locales favorisant leur reconversion ou leur reclassement.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Avec le licenciement annoncé de ces 1200 salariés, pensez-vous que KNS a encore un avenir? Si vous pensez que KNS a encore un avenir, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 6h38, vous écoutez Radio Rythme Bleu, l'actualité en métropole, ce sera après la pub, actualité dominée évidemment par les Jeux Olympiques, mais aussi à l'international par un regain de tension entre Israël et le Liban, on en parle juste après ça.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Coné.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité internationale. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour assister aux funérailles de 12 jeunes Israéliens. Tous âgés de 10 à 16 ans, issus de la communauté druze et frappés par un tir de roquette imputé au Hezbollah. L'attaque s'est déroulée lors d'un tournoi de football et a fait également 30 blessés. Un tir qui est intervenu après l'annonce de la mort de 4 combattants du Hezbollah dans une frappe israélienne. En représailles, Tel Aviv promet de frapper l'ennemi avec force et la communauté internationale, de son côté, craint un embrasement régional. Caroline Baudry pour Europe 1.
Oui, cette attaque pourrait constituer un tournant alors que le Hezbollah échange depuis 10 mois des tirs quasi quotidiens avec Israël pour soutenir le Hamas. David Rigoleros est chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique.
À tort ou à raison, les Israéliens considèrent, et là ça dépasse la propre personne du Premier ministre, que de manière consensuelle, que la question du Nord doit être réglée d'une manière ou d'une autre. Et au fil des mois, les responsables militaires et surtout politiques ont effectivement privilégié la solution diplomatique, notamment sur la question de la résolution 1701. Qui ne serait pas appliquée et qui maintiendrait une présence du Hezbollah qui normalement ne devrait pas être dans le sud Liban, faute de quoi il y aurait l'option militaire qui s'imposerait et c'est ce qui semble se dessiner aujourd'hui.
Une réponse qui pourrait, selon ce spécialiste, atteindre Beyrouth. Une riposte de nature terrestre fait également partie des scénarios. Paris et Londres appellent à éviter une escalade militaire. Nous ne voulons pas que le conflit s'aggrave, affirment les États-Unis, tout en soutenant le droit d'Israël à défendre ses citoyens.
Et selon l'armée de l'État hébreu, ce tir qui a tué 12 jeunes Israéliens, imputé donc au Hezbollah, est, je cite, le plus grand massacre de civils depuis le 7 octobre. La métropole s'apprête à faire face à la canicule. Pour le moment, 13 départements sont placés en vigilance orange. 23 autres le seront ce soir à partir de 21h pour nous. Par endroits, la température est difficilement supportable pour les habitants. C'est le cas par exemple en Corrèze. Exemple sur le marché du village d'Obja, près de Brive-la-Gaillarde, où s'est rendu Alexis Bourdon pour Europe 1.
Oui, actuellement, le thermomètre affiche 30 degrés. Ça devrait même grimper jusqu'à 35 par endroit. Forcément, sur le marché, cette première vague de chaleur de la saison occupe toutes les conversations et inquiète les Corréziens les plus fragiles.
On redoute un petit peu ça, essentiellement quand on a mon âge. Le côté gênant, si vous voulez, de ces fortes chaleurs, c'est qu'on reste quasiment inactif parce que les efforts sont de plus en plus difficiles à accomplir.
Ben, je m'enferme. Il faut tout fermer chez soi. Hein. Je ne sors pas. Puis c'est irrespirable. Il faut faire avec, on peut rien.
Quand vous êtes rousse comme moi et que vous avez une peau qui ne supporte pas le soleil,
oui, on redoute les chaleurs, oui, c'est sûr.
Pour le moment, cette vague de chaleur concerne surtout la moitié sud de la France, mais ces températures devraient se généraliser dans l'Hexagone dès le début de semaine prochaine.
Et il s'agit de la première vague de chaleur de l'année 2024 en métropole. Météo France prévoit des températures avoisinant les 40 degrés dans certaines régions. Un rafraîchissement est attendu en fin de semaine. Et puis de fortes pluies se sont abattues vendredi et samedi sur la capitale. Des précipitations qui ont eu pour effet de polluer la Seine. Et c'est l'un d'ailleurs des grands feuilletons de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Le fleuve sera-t-il praticable? Les organisateurs restent confiants, même si l'entraînement de natation pour le triathlon a été annulé hier soir pour nous. Mais pour Benjamin Mas, le directeur technique national de triathlon, les Français seront avantagés dans la Seine.
Nous, en tant que nation haute, on a pu analyser les mouvements de l'eau de la Seine, qu'on appréhende plutôt bien. Donc c'est sûr que les athlètes étrangers, eux, ne vont pas vont avoir beaucoup moins de temps pour appréhender ces mouvements d'eau. On a en plus la chance d'avoir des triathlètes français qui ont un niveau de natation qui est quand même au-dessus de la moyenne des triathlètes internationaux. Ils font partie des tout meilleurs sur cette partie-là, donc ils seront absolument pas perturbés. Nous, on a tout plein de relevés qui nous permettent de savoir comment choisir la meilleure trajectoire pour leur permettre d'être dans les meilleures conditions pour performer pour les courses. Et du coup, voilà, il n'y a pas d'inquiétude pour eux pour se présenter le 30 à 8h du matin au départ de ce triathlon olympique.
Benjamin Mas, le directeur technique national de triathlon. Et puis la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris ne fait pas l'unanimité. Une séquence notamment concentre les critiques. Le tableau des festivités, interprété en partie par des drag queens, qui fait fortement penser à la scène, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. La conférence des évêques y voit des scènes de dérision et de moquerie du christianisme. Ce n'était pas intentionnel, répond le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris, qui présente toutefois ses excuses. Et puis pour cette cérémonie d'ouverture, plus de 300 000 personnes avaient fait le déplacement sur les quais de Seine pour assister à un grand spectacle de plus de 3 heures, avec une très belle surprise également pour le grand final de ce show, puisque Félicia Ballanger figurait parmi la dernière délégation d'athlètes qui a conduit la flamme jusqu'à la vasque olympique. La triple médaillée en cyclisme sur piste nous a fait part de sa réaction à l'issue de la cérémonie.
C'est un petit peu incroyable d'avoir vécu ce moment, en fait. C'est vraiment un moment incroyable, évidemment, qui ne se reproduira pas. Donc, vraiment contente d'avoir participer à cette dernière séquence avec d'autres sportifs, une belle mise en valeur des anciens sportifs. Moi, j'étais au pied au début de la cérémonie en tribune présidentielle au pied de la Tour Eiffel et c'était incroyable, quoi. Donc c'était vraiment une vue magnifique. Donc ça, je pense que c'était vraiment un bon choix de la part du comité d'organisation.
Et Félicia Ballanger qui a également eu évidemment un mot pour encourager les athlètes calédoniens engagés dans ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est 6h45, les JO côté résultats, ce sera dans un instant, juste après la pub. On reviendra sur le sacre de Pauline Ferrand-Prévot. Il ne manquait qu'un titre olympique au palmarès de la française. La voici désormais sur le toit de l'Olympe avec son VTT.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Optique Bellevue est de nouveau ouvert avec accès au parking. Consultez nos horaires aménagés du lundi au samedi sur la page Facebook Optique Bellevue. Avec Optique Bellevue, c'est toujours vos lunettes à votre vue dans la semaine. Plus d'infos au 26 39 88. Optique Bellevue, votre vision, notre priorité.
En panne de cash, marre du chèque, optez pour le portefeuille électronique CFP. Particulier, échangez de l'argent, remboursez vos amis, payez chez vos commerçants affiliés sans aucun frais. Simple, instantané, sécurisé et 100% gratuit. Commerçant, encaissez à moindre coût depuis votre mobile ou tablette et sans engagement. Si vous n'utilisez pas l'application, elle ne vous coûte rien. CFP, le portefeuille électronique qui vous simplifie la vie, sans frais. Rendez-vous sur www.cfp.nc pour plus d'infos et télécharger l'appli.
Vous n'avez pas le temps? Vous avez envie de manger sain et équilibré? La Niçoise vous accompagne. Commandez, c'est livré. Plusieurs formules adaptées à tous les budgets à partir de 750 francs. Plus d'infos sur notre site et sur Facebook. La Niçoise, votre service de gamelle Vallée des Colons.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Avec les Jeux Olympiques, bien entendu, et nous ouvrons d'ailleurs notre page spéciale Paris 2024.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et la deuxième journée de compétition qui a apporté au camp tricolore de nouvelles médailles et surtout de l'or, Mickaël Genesky.
Exactement, et on commence par la natation avec un titre olympique et ce ne sera peut-être pas le dernier pour Léon Marchand. Le phénomène de 22 ans a remporté ce matin haut la main la finale du 400 mètres 4 nages avec meilleur chrono olympique, deuxième meilleur chrono de l'histoire sur cette distance. Et c'est peut-être seulement le début d'une belle moisson pour Léon Marchand, chercheur d'or dans ces Jeux Olympiques de Paris.
C'était incroyable. Très difficile de décrire ce moment pour moi. C'était un rêve depuis tout petit de faire une finale olympique. Belle champion olympique aussi, et là je le fais à la maison devant toutes ces personnes, c'était dingue. J'essaie d'écouter ce qui se passait et prendre l'énergie du public. Mais ouais, c'était top, j'ai hâte de faire ma nouvelle course dans deux jours. Au final, j'ai pas du tout regardé ce qui se passait à côté. J'étais très focus sur moi-même, premier 200 mètres. En bras, j'essaie vraiment de me servir du public, du bruit. Et j'ai réussi à pousser jusqu'à la fin. Après, en crawl, il manque un peu, je pense, pour faire un meilleur temps, mais je suis hyper content de ce soir.
Autre titre olympique du jour, cette fois en VTT chez les féminines. Pauline Ferrand-Prévot a conquis le Graal, la première place de l'épreuve de cross-country. Une véritable consécration pour la Française qui, à 32 ans, avait tout gagné sauf cette distinction. Pour sa quatrième participation aux Jeux Olympiques, elle a écrasé l'épreuve. Écoutez.
C'était une course incroyable et c'était une journée folle, donc je suis vraiment très heureuse. C'était un circuit qui n'était pas vraiment technique en soi, mais c'était un circuit très rapide où on pouvait faire des erreurs assez facilement, donc voilà, les crevaisons, les chutes pouvaient arriver rapidement, donc jusqu'au bout, jusqu'au dernier virage, essayer d'être concentré et voilà, de pas penser à ce qui pouvait arriver.
Et puis une nouvelle médaille venue du judo, ce n'est pas de l'or mais du bronze. Quoi qu'il en soit, Amandine Buchard est montée sur la troisième marche du podium, le troisième podium des judokas français, en remportant la petite finale des moins de 52 kilos.
J'avais du mal à trouver les ressources pour le bronze. Au final, je suis allée puiser au fond de moi-même. J'ai été puiser, puiser mon énergie dans le public et je les remercie parce que, punaise, un public comme ça, ça fait la différence. C'était vraiment difficile, j'ai enchaîné les deux Olympiades. Cette Olympiade a été vraiment très très dure pour moi. J'ai eu une grosse blessure à gérer. J'ai eu des hauts, des bas. J'ai cru pendant un moment que j'allais perdre cette lumière qui rythmait ma vie pour le judo. Et au final, j'ai pris des décisions qui étaient osées et ça m'a permis de revenir et aujourd'hui d'être médaille olympique une nouvelle fois.
Et la chasse aux médailles n'est pas terminée aujourd'hui puisqu'en escrime masculine, Yannick Borel s'est qualifié pour la finale à l'épée. Finale à suivre dans la matinée pour nous. Toujours en ce qui concerne les épreuves en cours, du tennis de table avec les frères Lebrun engagés ce matin dans les 32e de finale en individuel. En tennis aussi, Arthur Fils joue en ce moment même le premier tour après la qualification déjà de Corentin Moutet et d'Hugo Humbert. Alors que Gaël Monfils a été éliminé, mais il disputera encore le double avec Édouard Roger Vasselin. C'est passé dans le tableau féminin pour Diane Paré et Clara Burel. À signaler encore du côté des sports collectifs la victoire de l'équipe de France masculine de volley contre la Serbie pour son premier match. Victoire au tie-break pour les coéquipiers d'Hervé Nengapet, 3-7-2. Prochain match mercredi contre le Canada. En revanche, en waterpolo, une défaite des Bleus contre la Hongrie pour leur entrée en lice, 13-12. En ce moment même, l'équipe de France féminine de handball affronte les Néerlandaises. Et en football, les féminines sont opposées de leur côté au Canada. Vienne.
Une journée marquée, Mickaël, par l'entrée en lice de deux Calédoniens avec l'équipe de France.
Oui, en rugby à 7, après l'or décroché par les messieurs ce week-end, les Françaises avec Yolaine Yengo ont de quoi s'inspirer. Elles ont battu largement pour leur premier match de poule les Brésiliennes sur le score sans appel de 26 à 0 pour le compte de la poule C donc. Puis elles se sont baladées contre les Japonaises 49 à 0. On suivra également dans la matinée du côté de Tahiti les épreuves de surf avec Kaoli Vast, originaire de Calédonie de par sa mère, qui doit passer par les repêchages aujourd'hui pour poursuivre l'aventure en Polynésie française sur le spot de Teahupo. En revanche, sur le plan d'eau de Marseille, les épreuves de planche à voile IQ Foil, dans lesquelles est engagé Nicolas Goyard, n'ont pas encore pu commencer en raison des conditions météo.
Et on fait maintenant un point sur le classement des médailles.
Ouais, c'est encore très provisoire, hein, je vous le disais, dans la matinée en escrime, Yannick Borel disputera la finale de l'épée masculine, c'est-à-dire potentiellement une nouvelle médaille d'or ou bien au minimum de l'argent. En attendant, la France est remontée en deuxième position dans le classement des médailles avec 7 médailles, dont 3 en or. Elle est juste derrière l'Australie qui, grâce notamment à la natation, a déjà remporté 4 titres olympiques. La Corée du Sud et le Japon sont au pied du podium. La Chine est 5e, suivie des États-Unis.
Et puis on fera évidemment un nouveau point complet sur cette deuxième journée de Jeux Olympiques de Paris 2024, à la fois dans cette matinale, dans le mini-journal de 7h30 et le flash de 8h, mais aussi dans notre édition de 11h30 tout à l'heure.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et vous le savez, tout au long de cette quinzaine olympique, nous vous proposons de jouer sur Radio Rythme Bleu.
De mémoire de jeu avec les stations chez les Pacifiques.
Avec votre carte fidélité, toujours des remises sur le carburant et plein d'autres avantages.
De mémoire de jeu pour gagner chaque jour un bon de carburant de 5000 francs grâce à notre partenaire. Le principe est simple, chaque jour, dans le journal du matin et celui de la mi-journée, nous vous posons une question sur l'histoire des Jeux Olympiques et ceux qui en ont écrit la légende. Vous envoyez votre réponse par SMS au 3146 jusqu'à 17h, qui est l'heure d'un tirage au sort. Et dans le journal du soir, vous aurez la bonne réponse à la question du jour et bien sûr le nom du gagnant. Voici notre question. Le plus grand nombre de médailles glanées par la délégation française lors d'une Olympiade est de 102 médailles, dont 27 en or. Mais alors, lors de quelle Olympiade était-ce ? Si c'est lors des JO de Paris en 1900, vous tapez JO1. Si c'est lors des JO de Rome en 1960, vous tapez JO2. Si c'est lors des JO de Séoul en 1988, vous tapez JO3. Si vous pensez que c'était donc lors des JO de Paris en 1900, vous tapez JO1. JO2 pour les JO de Rome en 1960 et JO3 pour les JO de Séoul en 1988. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Voilà, vous avez jusqu'à 17h pour envoyer votre réponse. C'est l'heure où aura lieu le tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et le gagnant remporte, je vous le rappelle, un bon d'essence de 5000 francs offert par notre partenaire.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 3 Toyota Hilux, 730 cartes de carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte de fidélité.
Allez, il est 6h passées de 53 minutes, on va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Pour vous comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu.
Derrière nos agents, des clients comme vous, au service de la même exigence. Rendez-vous sur notre nouveau site office.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information.
La suite de l'actu sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et oui, puisqu'il n'y a pas que les JO sur la planète sport, il y avait aussi de la Formule 1 ce week-end avec le Grand Prix de Belgique.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et c'est le Britannique Lewis Hamilton qui a décroché la victoire sur le circuit de Spa-Francorchamps, Michael Genesky.
Sa 105e victoire en carrière après la disqualification de son coéquipier George Russell pour manquement au règlement. Il avait pourtant franchi la ligne d'arrivée en premier. Lewis Hamilton qui a devancé la McLaren d'Oscar Piastri et la Ferrari de Charles Leclerc. La stratégie de Mercedes d'opter pour un seul arrêt en course s'est révélée payante. Lewis Hamilton.
We got 1-2.
Non, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On a signé un doublé.
Inverted. through strategy, which
on a inversé les stratégies entre les deux voitures.
No, I think McLaren was the fastest.
Les Mercedes ont été les voitures les plus rapides en piste. Vous avez été surpris? Un stop, c'était la bonne stratégie.
Max Verstappen, le Néerlandais, leader du championnat du monde, a lui terminé à la quatrième place. C'est le quatrième Grand Prix de suite où il ne gagne pas. Côté français, Esteban Ocon a terminé huitième, Pierre Gasly douzième. Désormais, ce sera la pause pour les pilotes, des vacances avant la reprise dans un mois. Et ce sera pour le Grand Prix des Pays-Bas.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et on termine, Mickaël Juneski, avec l'actualité sportive en Nouvelle-Calédonie avec du padel.
Oui, les championnats territoriaux ont notamment débuté samedi. Deux week-ends de matchs dans la bonne humeur. De nombreux inscrits, près de 200 joueuses et joueurs qui participent. Stéphane De Gaillande, joueur et juge-arbitre de ces championnats de Calédonie de padel.
Une partie à l'Olympique, une partie au receiving et on gère l'arbitrage et l'organisation de ce tournoi. Et à chaque tournoi, il y a énormément de demandes. C'est pour ça qu'heureusement qu'il y a ce championnat parce que justement, on ouvre l'inscription à tout le monde et tout le monde a le temps de s'inscrire et c'est génial parce que ça met une bonne ambiance et tout le monde est content, tout le monde s'amuse. Plus ça va et plus les gens raffolent de ce sport, s'éclatent, s'amusent, c'est très ludique.
Des championnats territoriaux qui s'achèveront le week-end prochain. Ils donneront l'occasion aux gagnantes et gagnants d'aller disputer les championnats de France 2024 qui se dérouleront du 13 au 15 septembre à Strasbourg. Toujours au chapitre sportif, il y avait de l'haltérophilie ce week-end avec une compétition de reprise qui a rassemblé une trentaine de concurrents au Mont d'Or et en voile. La 5e régate du challenge croiseur Sirius Solaren organisé par le CNC en temps réel, c'est l'équipage de Young Guns qui l'a emporté samedi. En temps compensé, c'est BNC Léon qui a terminé en tête. Pour la régate en double, en temps réel dimanche, c'est Pulpito MLS FCD qui s'est imposé. Et en temps compensé, c'est Naturalia Untouchable qui a terminé en tête.
Et puis je rappelle qu'on verra évidemment tous les résultats sportifs ce midi dans le Mag des Sports et on va parler en particulier d'athlétisme ce midi après les bons résultats des jeunes lors des compétitions nationales. Nous recevrons leur encadrant Eric Reuillard et plusieurs athlètes calédoniens. Ce sera donc à suivre après Infomag, le journal de 11h30.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et côté météo, Thierry, ça va aller assez vite pour ce matin.
Alors ce matin, le soleil sera bien présent sur l'ouest malgré un voile de nuages élevé. Ailleurs, les passages nuageux seront fréquents et quelques gouttes seront possibles par endroits. Le vent, lui, sera orienté est à nord-est, entre 5 et 10 nœuds. Localement, il sera variable faible sur l'ouest et plus de 10 nœuds d'est sur la pointe nord. Cet après-midi, le soleil dominera en général. Toutefois, des nuages se développeront sur le relief et déborderont sur l'ouest en fin de journée. D'autres circuleront encore sur la côte est et donneront de rares averses. Au loyauté, le ciel sera plus nuageux avec quelques ondées isolées. Le vent sera faible, compris entre 5 et 10 nœuds pour cet après-midi. Toujours à l'est-nord-est, sur l'est et les loyautés, et sur le sud, sur l'ouest également. Localement, 10 nœuds d'est sur la pointe nord. Les températures maximales sont en légère hausse. Elles sont comprises entre 24 et 27 degrés.
Merci beaucoup Thierry. Merci à tous d'avoir suivi ce journal.